le dimanche de l'Église persécutée, je dois dire que ce sujet n'est pas pour moi un sujet sur lequel je me sens particulièrement à l'aise. Moi, occidental, j'allais dire protégé par un certain nombre de lois, mais pour moi ce sujet pose de nombreuses questions. Je vous invite à rentrer avec moi dans ces interrogations et puis aussi dans les réponses que le Seigneur nous donne dans sa parole. Alors, ça a commencé il y a longtemps, l'Église persécutée, et on peut faire remonter la persécution très loin. Le premier homme qui a souffert à cause de sa foi, ça nous est raconté dans les Actes au chapitre 7, qui est mort pour sa foi, c'est Étienne. Voilà un tableau représentant le martyr d'Étienne. Et déjà avant lui, Pierre et Jean avaient subi des tentatives d'intimidation. Et on trouve ça dans Actes 4 et une mise en prison dans Actes 5. Et par la suite, la persécution ne cessera jamais tout au long de l'histoire et elle se poursuit à notre époque. Elle continue de nouveau, toujours, et les chrétiens sont pourchassés pour des motifs politiques, genre Corée du Nord, pour des motifs religieux, ici dans un pays musulman où on brûle la Bible et la littérature chrétienne, ici en Afrique, où c'est une église aussi qui a été brûlée, et il y a aussi des motifs crapuleux, tout simplement pour prendre les terres des chrétiens, comme par exemple au Mexique. En fait, la persécution des chrétiens avait commencé avec le rejet de Jésus lui-même, qui avait averti en disant « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. » On trouve ça à Jean 15, verset 20. « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Alors, comme toujours, quelle est la première question qui nous vient à l'esprit? C'est pourquoi? Pourquoi, Seigneur, toi qui es le roi des rois, toi qui as tout pouvoir sur la terre, pourquoi est-ce que ton peuple doit souffrir? Pourquoi est-il tourné en dérision? Pourquoi n'imposes-tu pas ta loi? Et nous ne sommes pas les premiers à nous poser cette question. Déjà, les premiers chrétiens se la posaient. Et Pierre doit leur répondre dans sa première épître au chapitre 4. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris. Cela fait partie du programme. Pierre lui-même savait qu'il mourrait martyr. Jésus le lui avait dit. Alors, quelle est la signification de tout cela? Est-ce que c'est un combat humain? C'est-à-dire un combat de personnes contre des personnes. En fait, la plupart des textes qui nous parlent de la persécution ne mettent pas en avant la personne des persécuteurs eux-mêmes, mais ce qui les fait agir. Et nous sommes donc invités à considérer qu'il s'agit d'un combat spirituel. Un combat spirituel, ça veut dire que les persécuteurs eux-mêmes, même s'ils n'en ont pas conscience, même s'ils croient agir librement, sont en fait influencés par les forces du mal qui manifestent ainsi leur opposition au Seigneur lui-même. Quelques textes nous parlent de cela. Jésus dit par exemple, c'est Jean 8, verset 40, « Vous cherchez à me faire mourir. » Il dit aux religieux de son temps, « Vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, car il est menteur et le père du mensonge. Les persécuteurs accomplissent les désirs du diable, dit Jésus en voulant éteindre la vérité. L'épître de Paul aux Éphésiens nous dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. En fait, seul l'homme ou la femme qui se laisse transformer par le Saint-Esprit dégage peu à peu son intelligence de l'obscurcissement du péché. Encore un peu plus fort, si on peut dire, ceux qui persécutent croient rendre un culte à Dieu. C'est toujours Jésus qui le dit, Jean 16, verset 2, « L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Des gens aveuglés. Des gens aveuglés. Et mystérieusement, Dieu qui permet cela. Vous vous souvenez de cette rencontre entre Jésus et Pilate ? Jean 19, verset 10, Pilate qui dit à Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher ?» Et Jésus qui lui répond avec un culot extrême, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Ce texte nous montre que même le pouvoir de Pilate qui va envoyer Jésus sur la croix est entre les mains de Dieu. Rien n'échappe à la volonté divine. Il y a donc une opposition entre le peuple de Dieu et l'esprit du mal. Et tant que le Seigneur ne sera pas revenu instituer son règne éternel là où le péché n'existera plus, cette opposition sera toujours là. Alors une autre question qui se pose. Elle a l'air tranquille, hein, cette dame. Bien, à l'aise. Et est-ce que nous ne sommes pas nous comme ça? Pourquoi pas moi? Pourquoi tous les chrétiens ne sont-ils pas persécutés? Mais ils devraient l'être. Paul dit à Timothée, deuxième épître à Timothée au chapitre 3, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors, ça pose une question, pourquoi moi je ne le suis pas? Si je ne suis pas persécuté, attention, il y a danger. Peut-être tout simplement parce que ma vie de chrétien ne fait pas de vagues. Elle n'embête personne, elle ne contrarie personne. Je fais mon petit vie de chrétien bien tranquillement dans mon coin. Et évidemment, personne ne va me chercher de noises parce que je suis trop tiède, trop conforme au monde dans lequel je suis. Le deuxième point pour lequel c'est dangereux, c'est que nous sommes en train, nous qui ne sommes pas persécutés, de nous endormir. Parce qu'un jour ou l'autre, elle peut arriver et que nous ne serons pas prêts. Et le troisième point, c'est que Dieu a promis un certain nombre de bénédictions aux personnes qui traversaient les persécutions et que ces bénédictions ne nous atteindront pas si nous nous tenons tranquillement à l'écart de tout problème. Alors qu'on me comprenne bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut la rechercher, la persécution. Aucun des apôtres n'a recherché la persécution. Mais aucun ne l'a fui. Je vous dis simplement, je me dis à moi, je vous ai dit tout à l'heure que je suis pas là pour donner des leçons à quiconque. Je me dis à moi que nous devrions être alertés si nous ne sommes jamais en but à la moquerie, au tracas, à la polémique, à la contestation. Une autre question que nous pouvons nous poser, puisque nous avons vu que tout est dans les mains de Dieu, mais quelle utilité peut avoir la persécution dans le plan de Dieu? Si Dieu permet la persécution, c'est qu'il a un but, un plan à travers elle, un plan pour bénir son peuple, aussi paradoxal que cela pareil. Alors j'avais parlé tout à l'heure de bénédiction, c'est Jésus qui en parle avec moi. Vous vous souvenez, le sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 10, « heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, pour la justice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Il insiste. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Être heureux dès maintenant grâce à la persécution et avoir la certitude que nous serons heureux plus tard avec une récompense. Voilà une double bénédiction pour ceux qui sont en butte à la persécution. Le deuxième point, Paul en parle dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, au verset 4. Il parle de la foi des Thessaloniciens qui est au milieu des persécutions et des tribulations que vous avez à supporter, et il leur dit « C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Le jugement de Dieu, donner la paix et le repos à ceux qui ont souffert et châtier ceux qui ont fait souffrir. Oui, il y a une justice. Les crimes ne resteront pas impunis. Parfois, les choses qui traumatisent, qui posent question à nos frères et sœurs qui ont à subir les persécutions, c'est de dire mais les crimes qu'on nous fait subir sont impunis dans notre pays. Mais ils ne seront pas éternellement impunis. Dieu fera régner la justice. Voilà une pensée qui doit renforcer ceux qui souffrent. Nous sommes appelés aussi à participer aux souffrances de Christ. On dit peut-être trop facilement que notre salut est gratuit, que Jésus a souffert à notre place. Oui, mais comme il nous en a avertis, si le monde l'a rejeté, il doit nous rejeter aussi. Et c'est Pierre qui en parle. Premier épître de Pierre au chapitre 4, on a déjà lu ce texte. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Je ne veux pas parler pour vous, excusez-moi. Je suis, j'en ai conscience, un chrétien de luxe. Et je ne suis pas appelé à être un chrétien de luxe. De ceux qui profitent du don de Christ pour eux, mais qui ne donnent pas grand-chose pour lui. Honorez Dieu en tenant ferme. Toujours Pierre qui parle dans la première épître au chapitre 2 et qui dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite » afin que là où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. Voyant notre conduite, et notamment notre conduite dans l'adversité, ceux qui nous persécutent, ceux qui se moquent de nous, doivent remarquer les bonnes œuvres et glorifier Dieu le jour où Dieu viendra leur parler en disant « Ah oui, effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait une différence entre ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui ne l'aiment pas. » Un peu plus loin, dans ce même passage, il y a quelque chose un peu curieux. Verset 13, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Et un peu plus loin, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. On verra que ça a son importance. Et que nous, il est curieux que les chrétiens qui sont persécutés là ne sont pas appelés à se rebeller, mais à honorer l'autorité qui les persécute. Alors les épreuves sont appelées à faire grandir notre foi. Je vous lis toujours dans l'épître, le premier épître de Pierre, au chapitre 1er. À l'époque, ça devait être vraiment un problème pour ceux à qui Pierre a écrit, parce qu'il revient souvent dans son épître sur la persécution. C'est tout au début, il dit « Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ces épreuves servent à éprouver la valeur de votre foi, beaucoup plus glorieuse que l'or périssable et la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Un texte intéressant. On pense toujours que quand Jésus va venir, on va lui accorder à lui la louange, la gloire, l'honneur. Ben oui, c'est vrai. Mais ce texte nous dit que la louange, la gloire et l'honneur, elle est aussi pour ceux qui auront résisté à l'épreuve. Avant-dernier point, elles conduisent... C'est le dernier sur l'étiquette. Non, sur la diapo, mais il y en a une autre après. Elles conduisent le chrétien à l'état adulte. Et qu'est-ce que c'est que l'état adulte? C'est l'état où il est prêt à tout abandonner dans les mains du Seigneur. Je ne me sens pas du tout adulte. Paul dit aux Philippiens, ce qui était pour moi un gain, et il a énuméré avant qu'il était juif de la tribu de Benjamin, qu'il était pharisien, qu'il avait appris, bon, ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ, et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection, comme on aimerait bien que ce verset s'arrête là. Et la communion de ses souffrances. La fin du verset, elle me plaît moins que le début. Mon but, c'est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Un chrétien adulte, c'est celui qui peut lire tout le verset et dire « Oui, voilà mon but. » Peut-être que nous sommes en chemin pour y arriver. Une chose qui m'a beaucoup étonné en préparant cette prédication, c'est un texte de l'Apocalypse qui dit que les épreuves et la persécution permettent aux chrétiens fidèles, de participer à la victoire finale sur Satan. Avec ce texte étonnant de Apocalypse 12, verset 10, qui dit ceci, « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, Satan, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Et voilà ce qui est étonnant. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. qui a vaincu Satan et permis qu'il soit précipité là, ce sont ceux qui ont enduré la persécution et au point d'en mourir. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce texte nous dit que ce sont les croyants fidèles, ceux qui sont allés jusqu'au bout de leur témoignage, jusqu'à la mort, ce sont eux qui ont vaincu Satan. Ah bien sûr, c'est à cause de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau, c'est sûr. Mais c'est aussi grâce à leur vie droite et à leur don de leur vie pour le Seigneur. Et si un jour vous posez la question, à quoi ça sert l'Apocalypse ? Alors il y a plusieurs réponses à ça, mais une des réponses, c'est de montrer aux chrétiens de l'époque de Jean, et à notre époque aussi, aux chrétiens qui subissent la persécution, que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le mal qui est vainqueur, mais c'est le peuple de Dieu qui est vainqueur, même s'il semble écrasé, foulé aux pieds, torturé. Un autre texte en Apocalypse 20 nous montre les victimes de la persécution, ceux qui sont passés sous la hache, dit le texte, qui règnent avec Christ sur des trônes dans le ciel. La persécution n'est donc pas une défaite, même si elle entraîne la mort des croyants. Elle est leur victoire pour ceux qui sont restés purs devant le mal. Les chrétiens doivent donc vaincre leurs persécuteurs. Mais comment faire ? Est-ce qu'il faut vaincre par la force ? Connaissez cet homme là-haut ? Qui connaît cet homme ? C'est un collègue à toi. Il s'appelle Terry Jones. Il s'est rendu célèbre en brûlant des Corans. Ça vous dit quelque chose ? Pasteur américain qui s'est rendu célèbre en brûlant des Corans, qui a provoqué une flambée de violence chez les musulmans, dont bien des chrétiens ont pâti d'ailleurs, lui qui est bien tranquillement chez lui, hein. Et ben pour lui, quand on écoute, quand on lit ce qu'il écrit, c'est fini l'amour du prochain. Ça doit plus être notre façon de combattre. Il faut vaincre les ennemis du peuple de Dieu par la force. Et combattre le mal par le mal. Alors lui, il est pour envoyer des soldats américains partout dans les pays musulmans. Ce n'est pas la vie d'un certain Jésus-Christ. Et c'est quand même dommage pour un pasteur de ne pas être de la vie de Jésus-Christ. Pour ce Jésus-Christ-là que vous connaissez aussi bien que moi, il faut vaincre par l'amour. Et ce n'est pas des hommes que nous devons vaincre, ce sont les forces du mal qui les influencent. Comment Jésus a-t-il fait en allant jusqu'au bout ? Connaissez ce texte d'Hébreux 2, 14 qui dit « Puisque ses enfants sont des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux, il a participé à leur nature divine, c'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. » Pour pouvoir écraser le diable, il a fallu qu'il meure. Et nous sommes, nous, appelés à vaincre aussi. Paul dit en 2 Corinthiens, « C'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit. » C'est Dieu qui parle à Paul et qui lui dit ça. Nous sommes appelés aussi, Romains 12, verset 21, « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Alors, nous avons vu aussi, c'est le premier texte que nous avons lu, que le peuple de Dieu avait vaincu par le témoignage et par la puissance de la croix de Jésus. Alors, que faire ? Que faire ? Que pouvons-nous faire face à la persécution ? La parole de Dieu nous encourage à nous soumettre aux autorités. Donc, une façon de répondre n'est pas de la rébellion à tout craint. Sauf, quand même, que Pierre nous dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et il peut y avoir des cas où les deux s'affrontent et où on peut être amené à désobéir aux autorités pour obéir à Dieu. La deuxième chose à faire, c'est savoir que cette persécution, elle est normale, qu'elle n'est pas une désapprobation de Dieu. Et ça, je pense que quand on est persécuté, c'est quelque chose de précieux à avoir dans son cœur. De dire, je souffre, ce n'est pas parce que Dieu m'abandonne, ce n'est pas parce que Dieu désapprouve ma conduite. Au contraire, c'est parce que je suis fidèle. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Ne soyez pas surpris, au contraire, réjouissez-vous. Que pouvons-nous faire encore? C'est prier. Prier pour nos frères. Jacques nous dit que la prière fervente du juste est efficace. Nous sommes appelés à prier pour ceux qui souffrent, à intercéder pour eux. Mais nous sommes aussi appelés à prier pour leurs bourreaux. Vous vous souvenez de l'exhortation de Jésus qui dit « Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Que pouvons-nous faire encore? Aimer. On ne peut prier pour quelqu'un que si on l'aime. Aimez vos ennemis, dit Jésus. Comme c'est difficile. C'est peut-être un peu plus facile lorsqu'on se rend compte que les ennemis ne sont que des individus aveuglés, pilotés par les forces du mal, et qu'ils en sont finalement les premières victimes. Et les ennemis ne sont pas toujours ce qu'on pense. Je me rappelle d'un témoignage d'un pasteur philippin qui avait dû fuir toute une nuit parce que sa maison avait été attaquée par des musulmans. Et il avait fui et il avait été recueilli par d'autres musulmans qui étaient venus à son aide, qui lui avaient donné des vêtements parce qu'il était en pyjama, qui lui avaient donné de l'argent, il n'avait plus rien. Et qui disait à la fin de cela, notre ennemi, ce ne sont pas les musulmans. C'est l'esprit du mal qui agit en eux, en certains d'entre eux, mais ce ne sont pas les musulmans, puisqu'ils étaient à la fois ses persécuteurs et ceux qui l'ont aidé. Nous devons nous préparer. Nous qui ne sommes pas soumis à la persécution, nous devons nous préparer. Et une façon de nous préparer, c'est lire la parole de Dieu, la connaître, se l'approprier, l'apprendre. Peut-être un jour, nous n'aurons pas accès à la parole de Dieu. Dans mon pays de l'Ardèche, il arrive que quand on refait des travaux dans une vieille maison, on découvre une Bible murée, une Bible enfermée. C'était des chrétiens de l'époque des dragonnades qui avaient pris la précaution d'emmurer une Bible pour le jour où ils n'auraient plus, où on leur confisquerait la leur, pour pouvoir y avoir accès même dans ces conditions. Et puis elle est restée là parce qu'ils n'en ont pas eu besoin, ou parce qu'ils ont été déportés aux galères, ou je ne sais pas. Mais est-ce que nous avons emmuré une Bible dans notre maison pour le jour où on l'aura plus? Est-ce que nous avons fait un trou dans notre jardin avec... Non, on ne l'a pas fait, enfin je pense. Qui a fait ça là? Personne. Eh bien, nous sommes des imprévoyants. Mais nous pouvons l'emmurer déjà dans notre cœur pour que nous en souvenions, à condition de la lire. Et puis, apprendre, commencer à réfléchir à tout ce qui nous attache au monde, à tout ce qui nous empêche peut-être d'aller de l'avant et de proclamer notre foi de façon plus profonde. Tous les liens que nous avons, notre soif de respectabilité, notre soif d'argent, de pouvoir, nos liens professionnels, voilà, tout cela, est-ce que nos relations amicales avec certaines personnes, est-ce que ce ne sont pas des liens? Voilà, nous pouvons aussi nous tenir au courant sur ce qui se passe, c'est ce que nous essaierons de faire un petit peu tout à l'heure. Nous pouvons écrire à des gens qui sont persécutés. Ça peut être un grand encouragement pour des personnes de voir qu'ils ne sont pas oubliés. Nous pouvons soutenir en donnant de l'argent. Nous pouvons aussi faire pression sur les autorités. Récemment, il y a eu cette pétition qui a circulé sur Internet pour cette jeune fille trisomique 21 au Pakistan qui avait été accusée injustement d'avoir brûlé des pages du Coran. N'empêche que c'est l'imam qui a été condamné. Et la jeune fille a été innocentée. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu beaucoup de manifestations de soutien? Est-ce que ce ne serait pas simplement passé comme ça et la petite fille, la jeune fille aurait été condamnée? Et dernier point, je vous promets, c'est le dernier. Savoir patienter, mais je vois que vous savez, parce que ça fait un moment que je vous parle, la prière est toujours patiente, mais la récompense est promise. Le Seigneur l'a promis. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Notre récompense, si nous tenons ferme et si nous sommes persécutés, la récompense de ceux qui passent actuellement par la persécution sera grande. Je vous propose...